Radio Kapi.
Dossier taxe sur le registre des appareils mobiles RAM décrié par les Congolais actuellement, le ministre des Postes, Téléphones et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Pétentique, devant les sénateurs aujourd'hui, Augustin Kibasa va répondre aux diverses préoccupations des sénateurs sur la légalité de cette taxe prélevée par la RPTC sur les comptes des utilisateurs des téléphones mobiles. Problématique de la conservation des corps dans les morgues à travers la RDC. Radio Kapi vous propose cette semaine une série de reportages à ce sujet. Ce matin, nous serons à Matadi où l'hôpital provincial de Kinkanda vient d'être doté d'un conteneur frigorifique. Et puis, l'invité de ce matin, Dr Nyamugaragaza, médecin coordonnateur provincial du Programme national de santé sexuelle et de la reproduction au Sud Kivu, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé sexuelle, le 4 septembre, il nous parle de la nécessité d'une bonne santé sexuelle. Madame, Messieurs, bonjour. C'est en principe ce lundi que le ministre des PTNTIC, Postes, Téléphones et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication sera devant les sénateurs. C'est pour répondre aux diverses préoccupations de quelques sénateurs sur la légalité de la taxe sur le registre des appareils mobiles RAM. Pour ceux-ci, la perception des recettes RAM par l'ARPTC s'exécute sans disposition réglementaire claire ni acte générateur consacré par la loi des finances publiques. Cette redevance imposée est prélevée directement sur les comptes des utilisateurs des téléphonies mobiles, position que le ministère des PTNTIC ne partage pas. C'est comme nous l'explique Séraphin Oumba, directeur de cabinet du ministre Augustin Kibasa. Il est au micro de Billy Van Lutumba.
La base juridique est bel et bien là, la loi qui crée l'autorité de régulation des télécoms, l'ARPTC. Cette loi précise à son article 21 que l'ARPTC fait payer ses prestations, fait payer aussi d'autres éléments, mais ici ça concerne les prestations. L'ARPTC qui a acheté cet appareil et qui met le mécanisme de blocage des téléphones, qui met des mécanismes pour écarter sur les réseaux les téléphones contrefaits, qui met d'autres mécanismes tout autour, fait payer ces prestations-là. Ce sont au fait les prestations de la RPTC que nous considérons ici conformément à la loi qui crée l'autorité de régulation des postes et télécoms. Mais maintenant, à cet article même 21-là, il est dit que pour percevoir les prestations, le Premier ministre doit prendre un décret. Et ce décret a été pris en 2020 en modifiant l'arrêté qui a déjà été pris dans ces domaines-là, sur d'autres prestations, en 2012, à l'époque d'ailleurs du Premier ministre Mouzito, et que actuellement on n'a fait qu'adapter, modifier l'arrêté 0012/15 du 20 février 2012.
Sud Kivu, dans le cadre de la promotion du petit commerce transfrontalier, un comité régional vient d'être mis en place dans le but de plaider en faveur des petits commerçants transfrontaliers des villes de Kamembe au Rwanda et de Bukavu en RDC. C'était à l'issue de la réunion tenue ce week-end à Vive Hotel dans la ville Kamembe. Les jeunes entrepreneurs pour la consolidation de la paix GECOP se sont rendus au Rwanda pour prendre part à cette réunion conjointe organisée entre les jeunes entrepreneurs et les petits commerçants transfrontaliers des deux côtés de la frontière. Objectif, contribuer à l'instauration d'une société plus inclusive, à une paix durable dans la sous-région des Grands Lacs, à travers l'entrepreneuriat des jeunes et le commerce transfrontalier. Plus de détails dans ce reportage de Rachel Kiesembangu.
Le représentant des jeunes de la Ruzizi au Rwanda, Lambert Schema, a promis de collaborer efficacement avec toutes les parties prenantes afin de renforcer la cohésion sociale entre les deux villes.
Moi, je suis très content de participer dans une réunion d'échange entre les jeunes de Ruzizi et les jeunes de Bukavu parce qu'ils ont montré les problèmes qu'ils rencontrent là-bas à la frontière et c'est une bonne occasion parce que s'ils exposent leurs problèmes, c'est un bon chemin de résoudre.
Séverin Assis Fioué, du guichet d'économie locale GEL Sud Kivu qui a organisé cette activité, revient sur les motifs.
Donc on a voulu faire cette réunion conjointe parce qu'il y a différents problèmes auxquels les commerçants transfrontaliers des deux côtés font face. Et là, à travers cette réunion, il y a l'exposition des problèmes au niveau de Rwanda qui ont été faites. Il y a aussi l'exposition au niveau du Congo qui a été faite. Et de là, on a essayé un peu d'arrêter des pistes et des solutions afin de pouvoir y pallier.
Le président urbain de la société civile de Bukavu a insisté quant à lui sur le renforcement et la collaboration entre les coopératives et associations existantes de deux villes, ce qui aidera à faire le business of peace. Il a insisté également à la vulgarisation des textes légaux pour connaître les taxes à payer des deux côtés. Bukavu, Rachel Kiesé, Radio Okapi.
Nord Kivu, plus de 200 combattants se sont rendus ces deux dernières semaines au phare d'essai dans le territoire de Walikale. Selon des sources militaires et civiles locales, ces rendus proviennent de 5 groupes armés différents. Un député provincial élu de Walikale estime qu'il est grand temps de lancer le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS pour un bon accompagnement de ces redditions, dit-il. Le point avec Bernardin Nyangui.
C'est au moins 220 combattants qui se sont rendus à l'armée au chef-lieu du territoire de Walikale avec plus de 80 armes depuis le mois d'août dernier, indiquent les sources civiles et militaires locales. Ils proviennent notamment de groupes Kifuofua de Delphine Bainda, Ndoma Defense of Congo, Indice Rénové de Gilbert Bouira, Mouvement d'Action pour le Changement MAC et Front Patriotique pour la Paix FPP de Cabidon. La semaine dernière, une cinquantaine de combattants des NDC rénovés de Guidon sont aussi sortis de la brousse. Le député provincial élu de Walikale estime que le gouvernement devrait diligenter leur prise en charge et stabiliser le village jadis occupé par ces rendus.
Walikale est heureux de constater que nombreux jeunes acceptent volontiers d'adhérer au processus de paix lancé par le chef de l'État. C'est pourquoi nous voulons lancer cet appel de bien vouloir accélérer le processus en même temps, doter le DDRC de tous les moyens nécessaires pour l'encadrement et l'orientation de tous ces jeunes. Bien vouloir occuper toutes ces zones qui seront abandonnées parce qu'il y a risque que d'autres groupes armés puissent réoccuper ces mêmes zones.
Précisons que ces combattants sont cantonnés momentanément dans la base militaire de Biroué. C'est un groupement Wassa dans le territoire de Walikale. Goma, Bernard Nyangui, Radio Kapi.
Je vous le disais en titre, Radio Kapi propose cette semaine une série de reportages sur la conservation des corps dans les morgues à travers quelques villes du pays. Pendant plusieurs années, certaines villes de la RDC ont gardé une seule morgue. À la suite de la démographie galopante de la population, les autorités tentent de créer des nouvelles infrastructures, mais il faut faire face à d'autres réalités, notamment le manque du courant électrique ou la faible capacité des frigos mortuaires devant une demande croissante. C'est le cas récemment avec le nombre des décès dus au coronavirus dans certaines villes du pays. Ce matin, nous vous proposons la situation dans la ville de Matadi, où l'hôpital provincial de référence de Kinkanda vient d'être doté d'un conteneur frigorifique, d'après Dr Bijoun Soki, médecin directeur de cet hôpital. Ceci est une alternative pour désengorger l'unique chambre mortuaire dont dispose la ville de Matadi, en attendant la mise en service d'autres morgues déjà construites dans la ville. Nana Plurish Mambu nous fait le point.
Selon les Matadiens, la morgue de l'hôpital provincial de référence de Kinkanda est saturée. Elle n'a qu'une capacité d'accueil de 32 corps. Mais vu qu'elle est l'unique chambre de conservation des dépouilles dont dispose la ville de Matadi et ses environs, elle en conserve plus d'une centaine. La bonne nouvelle, selon Dr Bijoun Soki, médecin directeur de l'hôpital qui gère cette morgue, est que les dépouilles qui aujourd'hui sont entassées seront bien entreposées car bientôt, les conteneurs frigorifiques dont s'est doté cet hôpital sera mis en service. Selon la même source, les socles qui soutiendront ces conteneurs sont déjà construits et les travaux consistant à former des tiroirs à l'intérieur du conteneur viennent de démarrer. Maître Tristan Mavungu, porte-parole des mouvements citoyens du Congo central qui plaide toujours pour le désengorgement de cette morgue, salue cette initiative, mais selon lui, il ne résorbera qu'en partie les problèmes. Le 4 juillet dernier, suite à son alerte sur les réseaux sociaux concernant l'état des lieux de la morgue de Kinkanda, le bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central avait levé l'option de mettre en service la morgue déjà construite au centre de santé de référence de Mvuzi pour résoudre les problèmes liés à l'engorgement de la morgue de l'hôpital provincial de Kinkanda. Deux mois après, rien n'a été fait. Signalons que hormis la morgue de Kinkanda, la ville de Matadi dispose de deux autres morgues spacieuses. Mais pour des raisons inavouées, les autorités compétentes freinent leur fonctionnement, affirment certains témoins. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Direction le Maniema. 93 morts et plusieurs blessés graves ont été enregistrés dans les sites miniers des différents territoires de cette province. Information contenue dans le rapport publié ce week-end par la Ligue patriotique pour la promotion de la bonne gouvernance. C'est après des enquêtes menées durant 2 ans. Le coordonnateur de cette structure attribue ces morts et blessés au mauvais encadrement des services miniers en place. Jules Chouma Maéché explique au micro de Florence Kizalunga.
La Ligue Pabgo constate avec regret constater avec grande amertume la recrudescence des accidents dans les mines exploitées par les creuseurs artisanaux. Les tableaux étant largement sombres, quelques événements malheureux causés par des éboulements dans des sites miniers artisanaux ont été répertoriés par la Ligue patriotique pour la bonne gouvernance, un mouvement citoyen. La LIPABGO note que les services d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale à petite échelle, SAEMAP, ainsi que les chefs de division des mines ont lamentablement failli à leur mission. Cette faillite s'illustre par ce qui suit. La non-assurance et le non-apport de l'assistance technique sécuritaire aux exploitants du secteur de la petite mine. Le non-règlement des obligations découlant de l'exercice des activités des creuseurs artisanaux. La non-vulgarisation des normes de sécurité sur des sites. Les mesures de protection contre les éboulements n'ont jamais été prises en compte par les SAEMAP, moins encore par le gouvernement, malgré le fait que les creuseurs artisanaux contribuent à l'économie de la province.
Province du Tanganyika, les autorités provinciales ont procédé hier au transfèrement de 7 détenus dangereux de la prison centrale de Kalemie vers les prisons de haute sécurité. Objectif, désengorger la prison centrale. L'opération s'est déroulée sous haute surveillance par la compagnie CAA. Destination Lubumbashi dans un premier temps. Témoin de l'événement, François-Xavier Mibé.
C'est par un régulier de la CAA que les détenus jugés dangereux de la prison centrale ont quitté la ville de Kalemie. Ils viennent ce dimanche de prendre la destination de Lubumbashi. Les autorités provinciales parlent d'une première vague de criminels condamnés qui partent pour purger leur peine dans des maisons carcérales de haute sécurité. Le ministre provincial de l'Intérieur, Kidone Kamona, a supervisé leur transfèrement à l'aéroport de Kayinda.
La lutte est déjà engagée pour que la ville soit calme et que les bandits des grands chemins comme les autres qui sont ici soient arrêtés et transférés dans des prisons de haute sécurité.
Les 7 détenus dangereux sont tous des militaires condamnés les uns à la peine de perpétuité et les autres à la peine de mort. Le premier substitut de l'auditeur militaire des garnisons et auditeur à l'intérim, le capitaine magistrat Alfred Isselona, s'est dit déterminé.
Nous allons traquer tout celui qui opère avec les armes pour insécuriser la population. C'est ça notre mission.
Les autorités provinciales arrivent aujourd'hui à une deuxième expérience d'évacuation des prisonniers dangereux vers des prisons de haute sécurité en RDC. La première expérience de transfèrement des détenus dangereux remonte au 2 août 2019 vers la prison d'Anguenga, dans la province de Mongala. Kalemie, François Djabemi, Radio Okapi.
Et puis, plus de 200 médecins regroupés au sein du collectif des médecins non affectés dans les structures sanitaires du Kasaï oriental se plaignent du prolongement d'années de chômage depuis la fin de leurs études. Ce week-end, ces médecins ont rencontré les différentes autorités provinciales pour exprimer leur inquiétude face à ce qu'ils qualifient de discrimination. Roussel Kabealoukoussa, président de ce collectif des médecins, s'explique au micro d'Esther Ndalafina.
Nous venons demander à nos autorités qui sont au niveau national d'écouter nous voit que le médecin kassaïen qui chôme plus de 5 ans, alors ça fait très mal. Le Kassaï oriental n'a pas un pléthore de médecins. Les médecins sont insuffisamment consommés. La définition de l'OMS en ce qui concerne la consommation démographique de médecins, il est prévu un médecin pour 10 000 habitants. Le Kassaï oriental a un fichier de 570 médecins, si je ne me trompe pas, qui sont inscrits à l'ordre de médecins. Nous sommes moins de 1000. À l'intérieur, il n'y a pas assez de médecins. Alors nous venons auprès de nos autorités au niveau national et provincial de trouver une solution. Nous n'avons pas étudié pour faire l'entrepreneuriat. Quand on nous demande d'aller entreprendre, franchement, le seul métier que nous connaissons, ce n'est que soigner. Et on nous demande de créer des structures privées. 7 ans de chômage, comment est-ce que je peux trouver les moyens pour créer une structure privée? Et quand on parle de structure, où il y a un médecin? On voit un plateau technique. Où est-ce que le médecin qui sont en chômage forcé peuvent trouver cet argent pour créer des structures privées. Nos autorités, qu'ils puissent trouver une solution, que le médecin reprenne le chemin de la blouse blanche.
Contacté, le ministre provincial de la Santé par intérim affirme que le Kasaï oriental a besoin de cette main-d'œuvre qualifiée, mais elle est limitée dans sa décision suite au moratoire interdisant le recrutement à la fonction publique depuis l'avènement du nouveau régime.
Actualité, Afrique Monde.
Vive tension et confusion en Guinée-Conakry. Un coup d'État a éclaté hier. Le président Alpha Condé a été arrêté selon les putschistes qui ont annoncé la dissolution des institutions. Ce, après que des coups de feu ont été entendus dimanche matin dans la péninsule de Kaloum, quartier du palais présidentiel à Conakry. Le colonel Mamadi Doumbouya, ancien légionnaire de l'armée française, est à la tête de cette unité d'élite. Le président Alpha Condé, qui a remporté un troisième mandat présidentiel en Guinée lors d'un scrutin particulièrement contesté en octobre dernier, ne vit pas sa première tentative de coup d'État. En 2011, son domicile avait déjà été pris d'assaut. Après avoir fait adopter une nouvelle constitution en mars 2020, le président Condé, âgé de 83 ans, a pu contourner la limite des deux mandats fixés originellement. Il s'est ensuite représenté à un scrutin présidentiel pour un troisième mandat. Il a été proclamé président le 7 novembre dernier. Sa décision de se représenter avait pourtant provoqué la colère des Guinéens qui avaient protesté en masse dans les rues du pays. Jacob Zuma, en liberté conditionnelle pour des raisons médicales non détaillées, l'ancien président sud-africain est hospitalisé depuis un mois. Les services pénitentiaires l'ont annoncé hier dans un communiqué. À 79 ans, Jacob Zuma purge depuis début juillet une peine de 15 mois de prison pour outrage à la justice suite à son refus de se présenter devant une commission qui enquête sur la corruption sous sa présidence, mais il n'aura finalement passé qu'un mois en prison avant d'être hospitalisé début août. Il est désormais placé en liberté conditionnelle.
L'invité.
La journée mondiale de santé sexuelle a été célébrée le 4 septembre, une journée instituée en 2010 par l'Association mondiale de santé sexuelle avec le médecin coordonnateur provincial du programme national de santé sexuelle et de la reproduction au Sud Kivu. Nous parlons de la nécessité d'une bonne santé sexuelle. Le docteur Robert Nyamugaragaza, notre invité, s'entretient avec Rachel Kessembangu.
Docteur Robert Nyamugaragaza, bonjour.
Bonjour.
Qu'entendez-vous par santé sexuelle?
La santé sexuelle est une partie de la santé que l'OMS préfère utiliser la terminologie de la santé génésique. Ici chez nous, on parle de la santé de la reproduction. Et dans d'autres pays, on parle beaucoup plus pour être complet de la santé sexuelle et reproductive. Alors, la santé sexuelle est un état de bien-être général. Quand on dit un état de bien-être général, c'est un état de bien-être physique, mental et social, des organes génitaux et de la sexualité. Parce qu'on peut avoir les organes génitaux, mais la sexualité pose problème. Cela suppose que les individus ont le libre choix éclairé de faire des expériences sexuelles. Et que sur base de ces expériences-là, ils prennent des décisions sur base de connaissances suffisantes pour éviter les désagréments que peut créer le fait d'utiliser de manière incontrôlée ou inappropriée le sexe.
Et qu'il en est l'importance dans la vie de l'être humain.
La sexualité est très importante dans la vie de l'être humain. La sexualité ne commence pas seulement à la puberté ou à l'âge adulte. Chez un enfant qui vient de naître au niveau de sa bouche, un enfant qui est en train de téter sa maman, il sent un certain plaisir, mais ce plaisir-là le rend heureux. Plus il grandit, plus cette sexualité là va se déplacer au niveau de l'anus et puis après il va avoir des jugements et sur base des jugements là il va se créer des relations. Ce qui fait que dans la vie de l'homme, la sexualité est très importante, dans la vie de l'être humain d'ailleurs. On dit dans le monde animal, c'est la sexualité qui permet de réguler l'équilibre entre les êtres vivants dans l'écosystème dans lequel ils vivent, ce que les autres appellent MMS. C'est une blague pour dire au début d'un mariage par exemple, l'homme dit matin, midi, soir et puis ça devient mardi, mercredi, samedi. Et puis ça devient mars, mai, septembre, et enfin c'est même seul suffisent. Ça signifie que par exemple à l'âge assez avancé, par rapport à la sexualité, c'est tout l'amour qu'une vieille femme de 90 ans ou un vieil homme de 110 ans peut porter à sa femme en rapport avec la manière dont il les traite, la manière dont il place ses mains sur lui ou sur elle. Et c'est tout ça la sexualité.
Quand est-ce qu'une personne peut commencer à s'interroger sur sa santé sexuelle?
C'est souvent à la puberté qu'une personne commence à s'interroger sur toutes les modifications que son organisme est en train de subir sur base des hormones sexuelles secondaires. Une personne qui vient de naître comme un enfant ne se pose pas de questions sur sa sexualité. C'est lorsqu'il atteint un certain âge de la puberté, c'est à ce moment-là qu'il commence à se poser des questions et à voir les différences sur le plan génital entre le sexe masculin et le sexe féminin. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on demande aux parents de parler de ces sujets-là avec les enfants.
Que faut-il, docteur, pour avoir une bonne santé sexuelle?
Il faut d'abord être en bonne santé physique. Mais en dehors de ça aussi, il faut être dans une société qui permet de comprendre non seulement les modifications que l'organisme subit à partir de certains âges, mais aussi qui permet de comprendre et surtout d'expliquer la sexualité en fonction de l'âge. C'est ça qui va contribuer à la bonne santé. santé sociale. Et enfin, il faut une bonne santé mentale qui permet à ce que les émotions, l'affection aient une manière d'être gérée et comprise.
Quel risque y a-t-il à négliger sa santé sexuelle?
Il y a des risques sur le plan physique et c'est comme ça que vous avez certains problèmes sexuels liés au fait qu'on n'a pas donné d'informations, on a stigmatisé, on a discriminé. Vous aurez, par exemple, chez les femmes qui n'étouffent plus du plaisir pendant les rapports sexuels, nous les appelons des frigides. Chez les hommes, vous avez parfois ceux qui ont soit l'éjaculation précoce, soit pour faire l'érection, ça posera problème. Et ça, ça va ramener d'autres conséquences physiques. Chez les hommes, parfois, ils vont s'amener à prendre des aphrodisiaques ou des érectogènes qui ont d'autres conséquences sur l'organisme et sur même les organes génitaux.
Pour finir, docteur, aujourd'hui, la sexualité reste encore un sujet tabou dans certains coins de la RDC. Comment vaincre cela afin de donner une bonne éducation sexuelle aux jeunes, aux adolescents, aux enfants?
C'est d'abord un problème de gouvernance, puisque dans beaucoup de pays, les aspects liés à la sexualité commencent à la maison, en famille, mais devraient se poursuivre à l'école. Or, chez nous déjà, du fait qu'en famille, d'abord, c'est un tabou, c'est vrai, nous avons nos us et nos coutumes qui, parfois, ne contribuent pas à l'amélioration de la santé. Vous êtes parents, vous ne voulez pas parler de la sexualité avec votre jeune fille qui a 14, 15, 16 ans, mais vous êtes surpris qu'à 12 ans, elle connaît déjà des hommes. Mais la faute, c'est à nous, parents. Puisque si vous lui avez parlé de ça avant, elle attendrait 18, 20 ans. Quand vous allez, par exemple, dans les pays scandinaves, on dit que l'éducation sexuelle, c'est un droit pour les enfants et surtout les adolescents, et un devoir pour les parents.
Docteur Robert Niamugaragaza, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, Madame Kiesse.
Le médecin coordonnateur provincial du Programme national de santé sexuelle et de la reproduction au Sud Kivu était avec Rachel Kiesse-Mbangu. C'est la fin de ce journal, coordonné par Richard Junior Kamunga, supervision de Ben Kabamba. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez le réécouter sur notre site www.radiokapi.net.